Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons de la situation sécuritaire au Mali, une situation qui se dégrade, notamment dans le centre du pays. De nombreuses atteintes aux droits de l'homme, des exécutions extrajudiciaires et des détentions illégales, mais aussi des retards dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Voilà ce qui ressort du rapport du secrétaire général de l'ONU rendu public la semaine dernière. Un rapport inquiétant alors que les Nations Unies s'apprêtent à renouveler le mandat de sa mission déployée au Mali. Alors, faut-il renforcer les moyens et les pouvoirs de la MINUSMA? Et dites-nous si vous craignez que cette insécurité ait des conséquences dans l'organisation de l'élection présidentielle prévue le 29 juillet, donc dans un peu plus d'un mois. Vos témoignages, vos réactions, évidemment, nous intéressent. Vous nous appelez ici à Paris, 33 9 693 693 70. Vous nous rejoignez également sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook RFI, Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et nous allons justement commencer avec une question concernant le Mali et le rapport d'Antonio Guterres. Bonjour Kadim.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Dakar, soyez le bienvenu.
Juan, l'ONU a publié un rapport montrant la dégradation de la situation sécuritaire au Mali alors qu'on est à un mois et demi des élections présidentielles. Quelles sont les mesures que l'ONU a prises pour assurer la bonne tenue des élections présidentielles? Les conditions sont-elles réunies pour espérer le bon déroulement du scrutin?
Alors, c'est la question évidemment que tout le monde se pose. Bonjour Marie-Pierre Olfan.
Bonjour Khadim.
Journaliste au service Afrique de RFI, vous avez pu consulter ce rapport d'Antonio Guterres. Il décrit une situation qui se dégrade, notamment dans le centre. Les incidents liés à la sécurité ont augmenté de 200% au cours de la dernière année. Le document note en particulier que l'utilisation d'engins explosifs improvisés a doublé depuis le début de 2018, donc ces six derniers mois, notamment dans la région de Mopti. Alors concrètement, quelles sont les recommandations du rapport?
Alors, pour le secrétaire général de l'ONU, c'est clair, vous parliez du centre. La priorité du gouvernement doit aujourd'hui être de mettre fin à la crise dans le centre du pays en vue de ces élections dans un mois et demi. Sinon, il y a un véritable risque de contagion aux autres régions où la stabilité n'est pas non plus garantie. Antonio Guterres préconise en fait des progrès tous azimuts. D'abord, la reconstruction de l'armée malienne, c'est toujours un chantier important pour lui, tout comme le redéploiement dans le pays des forces armées qui ne sont pas partout aujourd'hui, pas partout au Mali. Pour lui, c'est un élément essentiel du retour à la sécurité dans le pays. Il préconise aussi l'implication des pays voisins, notamment ceux du Nord. Donc là, on comprend l'Algérie, même si elle n'est pas nommée. Pour lui, ces pays-là font partie intégrante de la solution aujourd'hui. Il demande plus de ressources pour la force du G5 Sahel, pour qu'elle contribue efficacement au retour de la stabilité au Mali. Il réclame, vous l'avez dit, des progrès concrets et rapides dans l'application de l'accord de paix parce que cette application piétine aujourd'hui. L'ONU prend enfin un véritable dialogue global, général, avec l'opposition politique, la société civile, pour que les conditions propices à la tenue d'élections qui se déroulent sans contestation soient créées et pour éviter d'autres risques de violence. Ouais,
et Antonio Guterres fait aussi plusieurs recommandations concernant la MINUSMA, qui a perdu 174 soldats. La MINUSMA qui a du mal à trouver un équilibre entre sa mission sur le terrain et la sécurisation de son personnel. D'ailleurs, cette mission des Nations Unies manque cruellement de matériel. Concrètement, que propose le chef de l'ONU?
Bah, au vu de ce que vous venez de décrire, c'est clair pour Antonio Guterres, il faut aujourd'hui, c'est important de mieux définir la hiérarchie des actions que la MINUSMA doit mener pour être plus efficace. L'ONU prend donc une reconfiguration du dispositif, des priorités de la mission. Elle doit aujourd'hui, la MINUSMA, se concentrer sur les tâches qui sont prévues dans l'accord de paix pour aider à la décentralisation, au redéploiement de l'État partout dans le pays et plus globalement pour aider à la réforme du secteur de la sécurité. Et au vu évidemment de cette situation sécuritaire dégradée, le secrétaire général des Nations Unies demande à ce que la présence de la MINUSMA soit ajustée dans le secteur nord et réévaluée dans tout le pays et notamment dans le centre. Et bien sûr, pour continuer ce travail, il demande une prolongation du mandat de la MINUSMA pour un an.
Voilà, mandat qui expire le 30 juin et qui sera très certainement renouvelé. Radim nous demandait si les conditions de sécurité sont actuellement réunies pour assurer la bonne tenue de l'élection présidentielle.
Alors c'est la grande question, évidemment la question que tout le monde se pose aujourd'hui, même dans les coulisses des ministères, de ceux qui préparent ces élections. On sait que la sécurisation du scrutin devra être assurée évidemment par les forces armées maliennes, les FAMA, mais aussi en partie par la MINUSMA, dans la limite des zones où elle est déployée, puisqu'elle n'est pas déployée dans tout le pays. Les groupes armés signataires de l'accord de paix, comme la CMA, la plateforme, vont être aussi en principe sollicités pour sécuriser le scrutin, mais sous quelle forme exactement, avec quelles armes, les choses ne sont pas tranchées aujourd'hui. Cette question doit d'ailleurs faire l'objet d'une réunion en fin de semaine avec les trois ministres chargés de cette question, et aussi toutes les parties concernées, notamment les principales coalitions politiques. Jeudi, vendredi, on discutera de la répartition des tâches de chacun. La sécurité, c'est toujours la grande inquiétude, notamment dans le centre, vous l'avez compris. Sur certaines routes, les gens n'osent plus se déplacer, n'osent plus rouler. On a du mal aujourd'hui à imaginer comment tous les Maliens pourraient voter partout. Mais en tout cas, officiellement, le ministère de l'administration territoriale n'envisage pas d'élections partielles à ce stade. Elles auront lieu sur tout le territoire, nous disait encore hier soir le ministre.
Et pas question donc non plus de repousser le scrutin présidentiel, donc de bien respecter le calendrier constitutionnel. Merci beaucoup Marie-Pierre Olfan. Radim, bonne journée à Dakar, et si le sujet vous intéresse, appelez-nous, vous êtes les bienvenus, nous vous donnerons la parole dans une vingtaine de minutes, 33 9 693 693 70. Nous allons parler football. Christophe Dirémzian du service des sports de RFI nous rejoint. Bonjour Christophe.
Bonjour Juan.
Bienvenue. Des questions sur l'exploit du Mexique contre l'Allemagne. Ça n'a échappé à personne, en tout cas ceux qui suivent la Coupe du Monde de football. Gabriel, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à Christophe Dérangien.
Vous êtes à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Nous vous écoutons.
Oui Juan, le champion du monde en titre, l'Allemagne, est tombé dès son premier match en championnat face au Mexique, 0 contre 1. Dimanche dernier, lors d'une rencontre très ébouriffante. Comment expliquer cette contre-performance de l'Allemagne face au Mexique?
Alors,
et ma deuxième question, celle de...
Oui. Allez-y,
si vous me permettez.
Allez-y.
Quelles sont les techniques que Joachim Löw envisage de prendre pour éviter l'humiliation lors du prochain match contre la Suède?
Alors, prochain match contre la Suède, ce sera le 23 juin. Il y aura ensuite la Corée du Sud. Christophe Dirémzian, c'est vrai que l'Allemagne a très mal commencé son mondial.
Oui, alors il y a eu quatre explications qui ont été fournies par les joueurs eux-mêmes. Un constat parfaitement lucide des joueurs de la Mannschaft pour expliquer cette défaite. Alors, d'abord, ils considèrent que le Mexique a souvent procédé en contre face à une défense allemande qui a été beaucoup trop déstabilisé en surnombre. En plus, il y a un gros problème, et ça, à mon avis, c'est un souci sur lequel Joachim Löw devra aussi revenir, c'est que les défenseurs latéraux ne redescendaient pas suffisamment vite. Ils ont été pris de vitesse souvent par les Mexicains au jeu très rapide. Il y en a un qui, évidemment, pointé du doigt, c'est Joshua Kimmich, c'est le latéral droit du Bayern Munich, tout simplement parce que c'est de lui, de son côté, que le but est venu de la part de Lozano à la 35e minute. Donc, il y a un gros problème de défense. En fait, un problème d'équilibre entre ceux qui veulent presser haut cette défense et ceux qui ont beaucoup trop reculé. Conséquence de tout ça, il y avait des espaces dont les Mexicains ont profité allègrement de ça, Lozano notamment, et du coup c'est un problème de choix tactique. Comment est-ce qu'on procède par rapport à une équipe mexicaine dont on sait les qualités offensives et le surnombre offensif? Parfois ils étaient 7 ou 8 à attaquer cette défense allemande. Là manifestement la Mannschaft a pas trouvé la solution. Autre problème, le milieu de terrain qui a pas été bon, mais pas du tout. La première période a été catastrophique, notamment pour Toni Kroos et Sami Khedira, à tel point d'ailleurs qu'on se demande franchement quelle va être la solution de Joachim Löw. Il va y avoir forcément des remplacements face à la Suède. On peut pas continuer avec des joueurs qui ont été aussi mauvais, notamment sur la première période. Et puis généralement l'attaque de la Mannschaft n'a pas été bon. Cette attaque, elle était un petit peu jeune pour l'instant. Elle n'a pas su créer le déséquilibre dans cette défense mexicaine qui a été vraiment particulièrement solidaire. Un chiffre simplement, il y a eu 26 tirs pour la Mannschaft, il y a eu 9 de cadrés. C'est dire que ouais. Franchement, à tel point que voilà, il y a un gros problème de ce point de vue-là.
Les Allemands s'attendaient à un match aussi dur.
Bah, ils ont été surpris. Pourtant, ils ont étudié ces Mexicains. Je pense pas que Joaquino soit arrivé comme ça en disant bon, c'est le Mexique. Ouais. Ils ont étudié.
Même si on sait qu'il y a une fatalité quand même quand on est champion du monde. On se souvient que la France en 2002, ouais. elle avait perdu son premier match, tout comme l'Italie en 2010, ouais. L'Espagne en 2014. Bon, bref, l'Allemagne finalement est dans la norme.
Alors peut-être que les Allemands se reposent un petit peu trop sur leur laurier. Pour l'instant, c'est une équipe qui est parfaitement rodée, qui se connaît bien, mais est-ce que manifestement il manque pas un petit quelque chose, un petit supplément d'âme, qu'ils ont un peu l'impression que ça va, on est champion du monde, donc on va pouvoir peut-être y aller un peu tout doucement. Mais non, parce que le Mexique, évidemment, on connaissait ses qualités offensives, donc ils ont dû se méfier davantage et être beaucoup plus rigoureux dans cette défense, et ça n'a pas été le cas pour l'instant.
En tout cas, l'Allemagne est obligée de réagir
oui.
Contre la Suède.
Alors, pour l'instant, de quelles solutions dispose concrètement Joachim Löw? On ne sait pas vraiment. Il y a quelque chose qui pourrait peut-être éventuellement relancer un petit peu l'attaque, c'est la titularisation de Marco Reus. Il était très demandé, il est entré en fin de match. C'est quelqu'un qui a pas joué ni l'Euro 2014, ni l'Euro 2016, pardon, ni le Mondial 2014. Et c'est quelqu'un qui est considéré comme un véritable créateur, très inspiré, l'une des étoiles de cette équipe de la Mannschaft. Mais pour l'instant, il n'a pas été vraiment très sollicité et manifestement, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs, beaucoup de journalistes allemands qui réclament sa titularisation parce que il y a besoin de lui et notamment pour suppléer aussi Mesut Özil, Arsenal qui, encore une fois, lui, n'a pas été bon du tout hier, la dernière fois. Il faut vraiment quelque chose, une espèce de Zidane, quoi. Voilà, quelqu'un qui est capable d'insuffler des qualités en attaque dont pour l'instant, les Allemands sont dépourvus.
Voilà, en tout cas, le sélectionneur, lui, se veut optimiste. Notre équipe qui a assez d'expérience pour surmonter cette défaite. Il n'y a aucune raison de s'effondrer, a-t-il dit en conférence de presse après donc la mauvaise prestation des Allemands face aux Mexicains. La Coupe du Monde, c'est à suivre évidemment sur RFI. Aujourd'hui, à ne pas rater sur nos antennes Afrique, Pologne-Sénégal.
Absolument.
Avec Olivier Pron et Christophe Jousset, ce sera à 15h temps universel. On espère évidemment que les Lions de la Teranga remporteront ce match. Ça permettra au moins à une équipe africaine de remporter son entrée en compétition. Et puis un peu plus tard dans la
Russie-Égypte, à partir de 20h heure française, là, ce sera le deuxième match des Égyptiens face aux pays hôtes. Ça risque d'être encore une fois un petit peu compliqué, mais évidemment, on attend toujours la titularisation probable cette fois-ci de Mohamed Salah du côté des Pharaons.
Eh bien, on verra ça à 18h temps universel avec Frédéric Suto et Alejandro Valente. Merci beaucoup, Christophe Dirémzian. 10h23 à Paris. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité, vous êtes les bienvenus. Shérif, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Vous nous appelez d'Atékoubé, c'est au nord d'Abidjan, et vous avez des questions sur le Yémen.
Oui, en effet. Ma première question, l'armée gouvernementale yéménite épaulée par l'Arabie Saoudite a lancé une offensive pour la reconquête du port d'Odeida.
Oui.
Ma première question est de savoir quel intérêt stratégique a ce port. Et quelles seront les conséquences d'une reprise de cette force dans la main des rebelles houthis qui sont épaulés par l'Iran?
Ah oui, et les combats sont particulièrement violents depuis la semaine dernière. Donc, ces combats opposent donc les troupes gouvernementales appuyées par l'Arabie Saoudite aux rebelles houthis. Et vous le disiez, shérif, l'objectif, c'est de chasser la rébellion qui contrôle cette ville portuaire d'Odeida. Bonjour, Franck Mermier.
Bonjour.
Chercheur au CNRS, spécialiste du Yémen, on vous doit notamment cet ouvrage publié aux éditions Actes Sud, Récit de ville d'Aden à Beyrouth. La bataille d'Odeida est présentée comme la plus importante de ces trois dernières années. C'est vrai que ce port, le port d'Odeida, est hautement stratégique.
Oui, tout à fait. Odeida, c'est une ville d'environ 600 000 habitants, donc qui est située sur le littoral de la mer Rouge. C'est le principal port de la mer Rouge au Yémen et par lequel transite l'essentiel de l'importation du Yémen, des importations et de l'aide humanitaire. Il faut savoir que le pays importe 90% de son alimentation, de ses nourritures. Et la ville est donc très importante sur les plans économiques, politiques et humanitaires, car elle est donc considérée comme la seule voie d'accès au monde extérieur de la partie du Yémen sous contrôle des rebelles Houthis. Évidemment, pour l'autre partie du Yémen sous contrôle gouvernemental, on dispose d'autres ports, notamment d'Aden. Mmh. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a un blocus qui est exercé par la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes, et que ces deux pays accusent aussi les Houthis d'acquérir des armes et des missiles en contrebande depuis Hodeïda, ce qui paraît particulièrement difficile hein, et un peu improbable. Donc cela fait partie aussi de la propagande saoudienne et émirienne concernant aussi l'importance de cette bataille, c'est de dire, pour la justifier, effectivement, qu'ils vont arrêter les importations d'armes en provenance d'Iran qui transitent par ce port, alors qu'il y a un blocus qui est exercé par l'Arabie Saoudite.
C'est-à-dire, je comprends bien Franck Mermier, vous ne croyez pas, vous, à cette version des faits qui dit que les rebelles, effectivement, utilisent le port d'Hodeïda pour faire entrer des armes.
Ben, et les rebelles, en fait, profitent des arsenaux constitués par l'ancienne armée yéménite qui était dirigée par l'ex-président Ali Abdallah Saleh. Ils ont de quoi, effectivement, riposter à l'Arabie Saoudite grâce à tous ces arsenaux. Et le fait que le contrôle des approvisionnements par Hodeïda est extrêmement sévère de la part de l'Arabie Saoudite et de ses alliés sur la mer Rouge rend assez improbable l'acquisition d'armes de haute qualité et de missiles par l'intermédiaire de ce port. Donc cela fait partie de la propagande, et c'est pour cela que la prise de Hodeïda serait une victoire importante pour la coalition arabe et les forces loyalistes, et serait aussi un revers majeur pour les Houthis qui perdraient leur seul accès maritime.
Effectivement. Mais en même temps, en attendant que la coalition menée par l'Arabie Saoudite reprenne le contrôle du port d'Hodeïda, les combats sont violents. On a appris il y a moins d'une heure que les forces de la coalition étaient entrées dans l'enceinte principale de l'aéroport. Donc ils avancent peu à peu. En même temps, il y a des milliers de civils aujourd'hui, actuellement, qui sont pris au piège, qui sont au cœur de cette bataille.
Oui, effectivement, dans une ville de 600 000 habitants, il va être extrêmement difficile d'épargner les civils, d'autant plus que la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats utilise évidemment l'aviation pour bombarder les positions des rebelles Houthis, que ceux-ci sont disséminés dans la population et qu'ils ont déclaré tout récemment qu'ils vont se battre pied à pied contre ce qu'ils considèrent comme l'agression saoudienne ou émirienne contre le Yémen. Donc il y aura effectivement une bataille sévère, d'autant plus que l'envoyé spécial Martin Griffiths, l'envoyé spécial des Nations Unies qui est allé à Sanaa, n'a pas pu évidemment avoir une réponse positive, obtenir une réponse positive de la part des rebelles Houthis, à qui on demande de se retirer de la ville pour épargner les civils. Ils ont déclaré qu'ils continueraient à résister à Hodeïda. Donc les conséquences de cette guerre, de cette bataille pour les civils sont très très importantes, sont très négatives sur le plan humanitaire. Cela pourra aussi conduire, si la ville est reprise et prise par les forces loyales et la coalition arabe, cela va conduire aussi à avoir l'approvisionnement du reste du Yémen sous contrôle saoudien, sous contrôle Houthi, pardon, totalement empêché. Donc c'est une des conséquences très importantes pour la partie du Yémen sous contrôle des rebelles Houthis, c'est de voir effectivement les approvisionnements arrêtés puisque c'est le seul voie d'accès est Hodeïda.
Effectivement, et c'est la crainte d'ailleurs des Nations Unies, interruption de l'aide humanitaire, la situation qui est déjà qualifiée par l'ONU depuis de nombreux mois comme étant la pire au monde. Merci beaucoup Franck Mermier d'avoir été avec nous ce matin. Chérif, a-t-on répondu à vos questions ?
Exactement.
Bonne journée alors, merci de nous écouter du côté d'Abidjan, au nord de la capitale économique ivoirienne exactement, à Tékoubé. On avait prévu d'autres questions, ne vous inquiétez pas, nous vous rappellerons demain, on sera ravis de vous avoir au téléphone évidemment. J'en profite pour vous annoncer que jeudi, à l'occasion de la fête de la musique, RFI vous propose une programmation spéciale. Toute la journée, nous aurons le plaisir, le privilège d'accueillir dans nos studios la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, et elle sera la rédactrice en chef de l'émission. C'est donc elle qui choisira les trois sujets d'actualité sur lesquels vous réagirez. 33 9 693 693 70. Appelez-nous dans 10 minutes juste après le journal. Nous reviendrons sur la situation sécuritaire au Mali à quelques jours du renouvellement du mandat de la MINUSMA et à un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.